Voilà, mais on va attaquer la section suivante, si vous êtes prêts. Voilà, donc une petite intro, comme d'hab, quelques mots. Donc, vous vous rappelez que là, il y a 15 jours, ça fait vieux maintenant, dans la péricope précédente, on avait assisté à l'arrivée à Jérusalem et à l'accueil qu'on pourrait qualifier d'accueil glacial, où Pierre est soumis aux critiques de ses collègues. De quoi, si vous réfléchissez bien, de quoi perdre un peu la face quand même en tant que chef de file. Ceci, toi, en tant que chef de file, tu es accusé, entre guillemets, à tort ou à raison. C'est jamais très bon pour le leadership que tu as. Voilà. Et puis, le fait qu'il soit attaqué, c'est aussi un problème pour le collège apostolique. C'est, au fond, toute la crédibilité, la popularité du collège des apôtres qui est en jeu. Hein ? Oui. Dans un groupe, quand un est attaqué, ben, c'est tout le groupe qui paye les conséquences. Alors on pourrait se dire, parce que je crois que c'est intéressant de le souligner, que ce n'est pas alors très étonnant qu'Hérode Agrippa, on verra ça au chapitre 12, Hérode Agrippa Ier s'en prenne à deux d'entre eux. À Jacques, le frère de Jean, et puis à Pierre, qu'il fait aussi arrêter en espérant bien le zigouiller, ce qu'il n'arrivera pas à faire, on verra pourquoi. Et ce n'est pas non plus étonnant que Jacques, frère de Jésus, cette fois-ci, Jacques l'apôtre, devienne ensuite le chef de file de l'église de Jérusalem. Donc jusque-là, on avait vu que c'était Pierre qui dominait ce leadership du collège, et puis là, entre notre chapitre 11 et le chapitre 15, on voit que Jacques a pris le pouvoir, si je puis dire ainsi. Donc on voit qu'ils se sont redistribués les rôles pour peut-être éviter les vagues liées à toutes ces histoires. Voilà. Donc ça, on le découvrira aussi encore un peu plus tard au 15e chapitre. Voilà donc pour poser les éléments. Alors, on peut en venir peut-être au questionnaire... Vous avez posé la première question, c'était de savoir mais quelle est la stratégie de Pierre, finalement. Il rentre, il est soumis à une critique assez virulente, et quelle est la stratégie qu'il met en place?
Il explique le déroulement des
événements. Oui.
Tout calmement.
Oui. Exactement. Donc, au fond, je ne vous coupe pas la parole. Hein, donc, allez-y. Alors, ce qui est intéressant, c'est de revenir au littéraire, au grec en particulier, parce que dans nos versions, alors, je ne sais pas quelle est la vôtre, mais oh, j'ai oublié de lire le texte, moi. Je vais un peu trop vite, tu vois. Non, je vais quand même lire ce tout début, à partir donc du verset 4. Alors, Pierre reprit l'affaire, donc sous-entendu l'affaire de Césarée, reprit l'affaire depuis le début et la leur exposa point par point. Et puis on lira le reste après, quelqu'un fera la lecture. Mais donc sur ce verset-là, le grec dit que Pierre exposait au groupe avec ordre, sous-entendu dans l'ordre dans lequel se sont déroulés les faits. Donc au fond, on s'aperçoit que Pierre comprend la légitimité de la critique, finalement. Il se met à leur place et il sait bien que si c'était arrivé à lui, en ne sachant pas les détails de tout ce qui s'était passé, il aurait réagi sans doute de la même manière. Puisqu'on le voit d'ailleurs, dans les épisodes précédents, il réagit comme un juif. Donc ici, je crois qu'il a bien compris la légitimité de ceux qui ne connaissent pas les faits ni leur déroulement. Et c'est pourquoi il prend l'initiative, finalement, d'exposer, alors, je dirais clairement, le plus succinctement possible, le plus clairement possible, patiemment, parce qu'à mon avis, il a quand même été entrecoupé de questions, et avec beaucoup d'humilité, lui qui est le chef de file, ne l'oublions pas, tous les faits qui se sont produits dans leur ordre. Je ne sais pas si vous les avez comptés, combien y avait-il de faits?
Beaucoup.
Si on les regroupe vraiment dans ceux qui sont apparentés, on peut au moins en dénombrer 8. Donc, si vous en avez plus, c'est pas grave. Ça veut dire que vous êtes allé dans le détail. Hein.
Oui, tout à fait.
Mais donc, on a par exemple, la prière de Pierre à Jopé et la vision qui y correspond. Oui. Ça, c'est les versets 5-6. On a, alors ça, c'est moi qui le dis, la répétition, c'est-à-dire trois fois la même injonction divine. Vous vous rappelez, c'était sacrifier et mange. Ça, c'est les versets 7 à 10. Et puis, on a l'arrivée à Jopé des envoyés, sous-entendu des païens, de Corneille. Ça, c'est le verset 11. Et puis, il y a l'esprit qui intervient pour convaincre Pierre de les suivre. Ce n'était pas gagné. Donc, heureusement qu'il a mis son grain de sel au verset 12. Et puis, on a les six frères qui accompagnent Pierre à Césarée dans la maison de Corneille, précise le texte, verset 12. Et puis, on a Corneille qui raconte sa propre vision, verset 13 à 14. Et puis, au tout début de l'intervention de Pierre, l'Esprit Saint qui tombe sur l'assemblée des païens à la Pentecôte. Comme à la Pentecôte, pardon, versets 15 et 16. Et enfin, je pense qu'on peut mettre un dernier point, c'est le don de Dieu, l'Esprit Saint, qui convainc Pierre que Dieu est bel et bien à la manœuvre et qu'il ne peut donc pas s'opposer à lui. Hein, c'est ça qu'il dit. Donc, en huit gros chapitres, en plus, si on veut, si on va dans les détails, il donne aux frères de Jérusalem les bonnes explications pour qu'ils puissent s'y retrouver et qu'ils puissent juger sur les faits, finalement, de ce qui s'est produit. Alors, avez-vous remarqué quelque chose dans cette liste? Alors que vous en ayez 14 ou 8 ou 6 ou peu importe, il manque quelque chose, bizarrement. Il manque, étrangement d'ailleurs, l'élément du baptême. Alors, étrangement, on parle bien de l'esprit, mais pas du baptême d'eau. Donc là, il fait silence complètement sur le baptême d'eau, qu'il n'abordera que dans le verset 16, on le verra tout à l'heure. Donc il a mis tout l'accent sur l'Esprit Saint, parce que sans doute pour lui, c'était l'élément primordial pour faire basculer de la critique à autre chose. Okay, donc étrangement, il n'aborde pas du tout le baptême d'eau qu'il a lui-même provoqué. Cette fois-ci, c'est pas Dieu, c'est lui qui a proposé qu'on les baptise. Alors peut-être voulait-il souligner uniquement ce que Dieu avait fait, et non pas ce que lui a fait. On peut estimer que c'est ça, en tout cas. Et donc, on reverra que la question sera quand même abordée d'une certaine manière au verset 16. Voilà, maintenant, si vous voulez, quelqu'un pourrait faire la lecture de 5 à 18, comme ça on a le texte dans les oreilles. Est-ce que quelqu'un veut le faire?
Je veux bien le faire, cette
personne. Ok, monsieur Robert.
Il dit... « J'étais dans la ville de Jopé, et pendant que je priais, je tombai en extase et j'eus une vision. Un objet, semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins, descendait du ciel et vint jusqu'à moi. Le regard fixé sur cette nappe, j'examinai et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. Et j'entendis une voix qui me disait, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais je dis, « Non, Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à trois fois. Puis, tout fut retiré dans le ciel. Et voici... Aussitôt, trois hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les six hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous a raconté comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant « Envoie quelqu'un à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Et je me souvins de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pourrais-je, moi, m'opposer à Dieu ? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant : Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie.
Très bien. Je ne sais pas quelle version tu as, mais c'est assez proche du grec, je trouve. Alors que la mienne, la top, s'en éloigne.
C'est la seconde.
Non, c'est bien, c'est pas mal. Pas mal du tout. Voilà, alors, deuxième petite question. Alors là, c'était plus une question de réflexion personnelle, mais quand vous pensez à vos communautés locales, est-ce qu'on résout vraiment les situations critiques ou conflictuelles de la même manière que Pierre ? Est-ce que cet exemple, justement, de Pierre, puisque nous méditons l'Écriture, peut nous inspirer ?
Elle devrait.
C'est jamais simple, hein, les tensions en Église, parce que je pense qu'on part d'un présupposé. En Église, rien ne peut arriver. En Église, tout fonctionne bien.
Qui dit ça,
et nous oublions, mais c'est ça, nous oublions alors un fait important, c'est que si l'Église est vraiment l'Église, l'ennemi fout le brin. C'est le lieu où il faut le mettre, parce qu'ailleurs c'est consentant dans le monde. Il n'a pas besoin de mettre le brin, c'est le brin pour tout le monde, d'accord ? Mais dans l'Église où ça ne devrait pas, c'est là qu'il attaque hein, le mieux, dès qu'il y a un peu de pacification. On vient chercher un problème qui peut être théologique, qui peut être personnel, etc. Et c'est pour ça que je pense que les évangéliques, parfois, sont vraiment naïfs et bisounours au possible. Parce que, justement, ils ont pourtant une croyance très, très claire sur l'action de l'ennemi, mais pas dans l'Église. Quand c'est à l'extérieur, ça, c'est OK. Mais justement, on est attaqué au cœur même de là où on doit faire la démonstration de la pacification.
Voilà. Continue à grandir.
Donc résultat, je pense qu'on ferait bien de s'inspirer aussi de cette action apostolique où Pierre montre que on peut être soumis à la critique sans se sentir attaqué personnellement. Et pourtant, il l'a été là. Le texte nous l'avait montré la fois précédente. En grec, c'est très fort. Hein. Il est systématiquement attaqué en tant que personne pour avoir dérogé aux règles. Et il aurait pu, en tant que chef de file, faire quoi ? Comme on le voit. Voilà. Un peu d'autorité, un peu de colère sainte.
C'est moi qui n'ai pas de compte à rendre.
Oui, ce genre de
c'est moi qui dirige. Bon, enfin, voilà. Donc j'imagine bien que c'est ce qu'on a vécu parfois en Église, nous. On a découvert que le conflit n'était pas réglé parce qu'il se réglait de manière autoritaire. Et qu'au fond, ben voilà, on finit par céder à celui qui a la plus grande voix, c'est ça, pour ne pas dire autre chose. Mais on n'est pas du tout convaincu et ce n'est pas spécialement la paix. Oui.
Mais je pense que le gros problème, que ce soit en Église ou n'importe où, c'est l'écoute. On ne s'écoute pas, je pense.
Parce qu'on est des êtres émotionnels. Non oui. Donc on fait plus confiance à nos émotions qu'à la promesse qu'on peut vivre en paix et qu'on peut se pardonner même des choses délicates, hein, des choses dures, c'est difficiles, pour pouvoir justement maintenir ce que saint Paul appellerait le lien de la paix. C'est la preuve même que nous sommes Église, notre capacité à nous pardonner mutuellement chaque fois que nous sommes blessés par l'autre. Donc voilà. Donc c'était une question un peu impertinente, hein, cette deuxième question, mais pour qu'on s'interroge finalement, pourquoi on réagit comme ça ? Pourquoi ça se passe mal en Église ? Quand il y a je ne parle même pas de conflit, un désaccord sur une vision. Hein ? Que doit-on faire en tant qu'Église ? Parfois on se dispute là-dessus, et ça finit mal, parce que ça devient un problème. Alors ça ne devrait pas nécessairement. Et là, je pense que Saint-Pierre nous montre, alors qu'on sait, nous, qu'il était plutôt un homme énergique et fougueux, on ne le reconnaît pas, là, dans le texte. On se dit, là, il a compris qu'il pouvait ne pas s'énerver et provoquer un apaisement de la situation pour la plus grande gloire de Dieu. D'ailleurs, on le verra dans le texte. C'est manifeste.
Et comme tu l'as dit,
il a compris, il a mûri terriblement avec tous les événements. Oui. Ils ont reçu l'esprit, il a reçu l'esprit, il a eu plusieurs visions. Ça, ça a dû le calmer quand même.
Oui, c'est ça, mais en même temps, je crois que.
On garde sa nature profonde.
Je crois que Pierre a changé avec l'histoire du reniement. Son reniement.
Ah oui, parce qu'il se croyait.
Oui, il se croyait au-dessus de la mêlée, toujours. Oui. Et là, l'histoire du coq, du reniement, et du questionnement de Jésus quand Jésus le retrouve, je pense que ça, ça l'a transformé.
C'est un homme intelligent, justement. Il se remet pas en question uniquement, il a interpellé.
Il est interpellé.
Il est interpellé par tout ce qui s'est passé.
Oui.
Et puis le Jésus l'a
fâché. Je crois vraiment que son vœu, c'est de maintenir l'Église dans sa vision pacifique telle qu'il la vive depuis la Pentecôte. Mm-hmm. Il n'a pas envie de diviser l'Église à cause de ce qui s'est passé. Et en plus, lui, il sait que ce n'est pas lui qui était en compte, c'est Dieu. Mm-hmm. Donc c'est Dieu qui était à la manœuvre. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant?
Maintenant, moi, je crois aussi que ce qu'il a vécu au début, ça l'a interpellé beaucoup. Il était, comment est-ce que je vais dire, plus qu'interpellé. Il aurait été presque même, pas révolté non plus, mais très fort interpellé. Quand il rentre, c'est normal que c'est les autres le soient aussi. Je n'ai pas un terme. Il attaque, non, il pose des questions pertinentes, vais-je dire, presque, puisqu'ils ne sont pas au courant de tout ça. Non.
Et il veut aussi que ses compatriotes comprennent ce cheminement.
Oui.
Voilà, parce que lui, ça. Il a mis du temps à.
Et lui, il l'a vécu dans sa chair, il l'a vécu en live, quoi.
Et donc, il veut expliquer bien en détail pour le cheminement, pour montrer que lui aussi a changé, il a évolué, que c'est, enfin, c'est Dieu qui l'a transformé.
Ouais.
Et le plan de Dieu, quand il y en a un, tout est mis en ordre.
Pour étirer la conclusion sur laquelle on sera tous d'accord, c'est Dieu qui gère l'Église, jusqu'à preuve du contraire.
Ouais.
Donc là, c'est manifeste. Et c'est ce qu'il essaye de démontrer avec tous les arguments qu'il a, les 8 ou 11 ou 12 ou 14 choses qu'on a pu trouver. Donc, à mon avis, on a déjà traité 3 questions, globalement. Bon. Alors, bien sûr, il y avait la 4e sur l'attitude de... Il y a juste une chose sur laquelle je voudrais venir, parce qu'on ne l'a pas vu dans le chapitre 10, vous savez, il y a le verset 14 qui est venu se glisser ici, qui dit... alors, c'est donc dans la vision que Corneille rapporte, et il dit qu'il exposera devant toi les événements, alors les paroles, ça dépend des traductions, qui apporteront le salut à toi et à toute ta maison. Ça, c'est un détail qu'on n'avait pas dans les versions précédentes de la vision de Corneille. Et littéralement, si on traduit le grec, c'est des paroles, donc il exposera des paroles événements, si vous voulez, par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute la maison de toi. C'est ça que dit le grec. Alors, on peut tirer la conclusion qu'il était donc nécessaire que Pierre le rencontre, vienne à sa rencontre à Césarée, pour le salut de Corneille. Je ne sais pas si vous êtes allé au bout du raisonnement, mais ça veut donc dire que Corneille n'était pas sauvé. Il est craignant Dieu, et pourtant, il a besoin du salut. Et ça, je crois que ça doit un petit peu nous questionner quelque part. Au fond, le salut qui va lui être accordé, c'est la réponse à toutes les prières que Corneille a formulées dans le passé. D'accord ? On a vu son attitude, prière et générosité. Eh bien, ça, c'est la réponse du Dieu d'Israël à Corneille. Puisque tu es un craignant Dieu, puisque tu cherches quelle est ta destinée, tu seras sauvé. Et Pierre va venir te raconter ce qu'il en est. On y apprend donc que les craignants Dieu, sous-entendu les d'origine païenne, doivent être sauvés au moyen du sacrifice du Christ crucifié et ressuscité. Peut-être on peut mettre un bémol ici et dire que, jusqu'à présent, les craignants Dieu qui s'étaient fait circoncire pouvaient être assimilés au salut des Juifs ou à l'élection des Juifs. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais une fois que Christ est intervenu dans l'histoire des hommes, une fois qu'il est venu, qu'il a enseigné, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, craindre Dieu pour un païen ne suffit plus, ne suffit pas à le sauver. À la différence des Juifs qui, eux, sont toujours élus, que le Christ soit venu ou pas, que le Messie se soit révélé à eux ou pas, ils font partie de ce peuple-là. Donc, comment... Oui, vas-y, vas-y.
Mais est-ce que pour ça, ils ont le salut automatiquement? Ou est-ce qu'ils doivent croire aussi au sacrifice de Jésus?
Alors, on sent bien dans l'Écriture, et en particulier dans l'Ancien Testament, que Dieu règle souvent ses comptes avec le peuple d'Israël. C'est-à-dire qu'il leur rappelle qu'il ne suffit pas de faire partie du peuple élu pour être considéré comme de véritables croyants, de véritables sentinelles, etc. Donc Dieu fait déjà un espèce de travail de leur dire, pour être vraiment un juif élu, il faut correspondre à la volonté de Dieu. Donc tu peux, sans Jésus, être sauvé à partir du moment où tu vis pleinement ton judaïsme. Mais si tu t'accommodes, comme on a vu dans l'histoire d'Israël, s'accommoder avec d'autres religions, avec d'autres dieux, etc., il est clair que le salut... il n'est pas automatique non plus. D'accord ? Mais maintenant, si tu te mets dans la peau d'un craignant Dieu qui a accepté d'être hanté véritablement sur le peuple juif parce qu'il pratique toutes les choses nécessaires, on peut estimer qu'il est effectivement sauvé par cette appartenance-là. Mais à partir du moment où Jésus est venu, où le Messie s'est déclaré, on peut aussi se poser la question... Est-ce que les Juifs seront sauvés automatiquement, même ceux qui ont bien pratiqué, alors que le Messie est à leur porte? Ils le seront s'ils le reconnaissent, à mon avis, comme Messie. Voilà. Donc jusqu'au fait que Christ ne soit venu, il y a un espèce de salut global, si tu veux, pour le peuple d'Israël, jugé selon la manière dont tu as observé les règles, la loi... et la foi véritable intérieure de l'être. Ce qui sous-entend qu'il y a des Juifs qui ne le sont pas. Et d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, on voit qu'il y a des Juifs qui sont éliminés. Vous rappelez toutes les révoltes, toutes les histoires, il y en a sous les prophètes, ou même dans la royauté, des gens qui sont vomis. Dieu les vomit à ce moment-là, parce qu'ils ne sont pas conformes à ce qu'ils disent qu'ils sont. Qu'il devrait être. D'accord ? Donc, on doit réfléchir à tout ça. Mais je voulais donc souligner ce verset parce que pour moi, c'était important quand même de comprendre qu'il ne suffisait donc pas d'être dans le camp des craignants Dieu, en tout cas pour un païen, pour être automatiquement sauvé à partir du moment où le Christ est venu. Et c'est la raison pour laquelle Pierre a cette vision et Corneille a sa vision. Et les deux visions font que, enfin, Corneille va savoir pourquoi il croit. Alors que jusque-là, il croit parce qu'il trouve que le judaïsme est l'expression de la vérité, vraisemblablement, et parce qu'il aime Dieu, et parce qu'il aime les frères juifs avec lesquels il a des rapports. Mais voilà, il se trouve qu'il est devenu craignant Dieu à une époque où le Christ est venu, où le Messie est venu. Il lui manque un tout petit quelque chose pour être véritablement sauvé. Alors moi, ça m'a choqué. Je vous avoue, quand j'ai lu étudié le verset, je me suis dit, ah ben, je croyais que c'était quand même plus simple que ça. Et puis alors le verset nous ramène aussi à une autre réalité, ce verset 14, c'est que la promesse n'est pas que pour lui. Donc le salut offert l'est aussi pour tous ceux de sa maison. Et il faut prendre le mot « maison » dans un sens araméen très large, c'est-à-dire plus que la famille. Alors, la maison de quelqu'un, c'est tous ceux qui dépendent de lui. Tous ceux qui dépendaient de Corneille, ou, on va le dire autrement, tous ceux qui sont sous sa protection ou sous sa direction, tous ceux qui sont sous son autorité, en clair, famille, amis, subalternes pour ceux qui étaient dans l'armée, esclaves et domestiques. Tous les gens avec lesquels il avait un rapport... Alors, spirituel, j'entends. Hein. Ce n'est pas parce qu'il est commandant d'une cohorte que, d'office, tous ses 100 soldats vont le suivre et être sauvés. Ce n'est pas ça que dit le texte. Mais tous ceux avec lesquels il avait la même vision de ce que le judaïsme pouvait leur apporter, de ce que le Dieu d'Israël était, tout cela font partie de ceux qui sont « sauvables », entre guillemets. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de se rappeler, dans ce qu'on a déjà vu, que puisqu'ils ont tous reçu l'Esprit-Saint, c'est donc que Dieu leur reconnaît cette foi-là. Sinon, il y aurait eu dans l'Assemblée peut-être des gens qui auraient reçu l'Esprit et d'autres pas. D'accord ? Voilà. Ça vous va ? Vous n'êtes pas choqué par ce...
Non, je ne suis pas choqué, mais je demande une petite chose. Tu as dit que ceux donc, qui ont reçu ce qu'ils ont vécu là, hein, ne sont pas sauvés automatiquement. Puis après, tu parles que beaucoup ont reçu l'Esprit Saint. C'est ça ? Donc ceux qui ont reçu l'Esprit Saint,
ce n'est pas parce que ce n'est pas parce que tu es craignant Dieu que tu es sauvé. Parce que
alors, qu'est-ce qu'il faut faire en plus ? C'est ça, disons.
Le salut, salut dépend de ta reconnaissance du Christ. Voilà. Il ne dépend pas de ta religiosité. Tu vois ce que je veux dire ?
Ça non.
Mais c'est pareil pour le judaïsme.
Et comment tu le fais ?
Par les paroles. Ben justement, par les paroles de Pierre. Et si vous lisez bien le texte tel qu'il est au verset 15, alors bon, ça dépend des traductions, mais on pourrait dire... je veux que je remette mes lunettes, parce que sinon, je ne vois pas ce que je veux défendre. Moi, dans la taupe, j'ai à peine avais-je pris la parole que l'Esprit-Saint tomba sur eux. Alors, selon les versions, ça rend la même idée. Il avait commencé son discours, sous-entendu, il ne l'a pas terminé. C'est ça que dit le texte, en fait. Hein. Donc, il n'a pas fait la démonstration qu'il voulait faire, et pourtant, l'Esprit-Saint survient sur eux, tombe sur eux. Il est interrompu, finalement, par le don de l'Esprit sur l'Assemblée réunie. Et c'est sans doute ça qui choque Pierre plus que tout. Pierre se rend compte que Dieu a fait un choix, a élu cette assemblée-là. Chacun des hommes qui composent, ou femmes, etc., enfants qui sont là, ont reçu l'Esprit-Saint. Comme une sorte de reconnaissance de leur crainte de Dieu, ou, on va le dire encore autrement, parce que c'est ce que dit le texte grec, de leur métanoïa, c'est-à-dire de leur retour à Dieu, de leur demi-tour vers Dieu, pour ne pas dire le mot repentance ou le mot conversion. D'accord ? Donc, il semble que Dieu a déjà vu dans le cœur de ceux qui sont là leur esprit de repentance. Face aux quelques mots, et peut-être aux attitudes qu'ils avaient de craignant Dieu, mais aux quelques mots de Pierre. Et Pierre n'a pas le temps de terminer ce qu'il voulait démontrer, et l'Esprit-Saint se manifeste. Et Pierre prend ça alors vraiment comme une espèce de... d'éclairage complet sur la vision qu'il a eue. Il se rend compte que la vision qu'il a eue est grandiose, que finalement Dieu choisit aussi des païens. C'est ce que nous dit notre texte, en fait. Et d'ailleurs, dans sa défense, au verset 15b, il dira à l'auditoire, à ses collègues, à Jérusalem, comme il l'avait fait sur nous au commencement. Donc, sous-entendu, comme l'Esprit l'avait fait sur nous au commencement, qu'est-ce que le commencement ? Le jour de la Pentecôte, d'accord ? C'est-à-dire le jour où tout a commencé, le jour où, officiellement, le jour de naissance de l'Église. Donc, pour lui, c'est clair que ce qu'il vient de vivre à Césarée, c'est exactement ce qui s'est passé pour eux lorsqu'ils étaient à la Pentecôte. Donc, peu de temps après la résurrection de Jésus. Et donc, il en tire une conclusion, lui. Il se dit, si Dieu agit comme ça, à Césarée, c'est-à-dire au cœur du pouvoir de Rome, Dieu ne fait donc aucune différence entre juifs et gentils. Ou pour le dire encore plus simplement, aucune différence entre les humains.
Voilà.
Dans sa grâce, tous sont sauvables. Donc ce n'est pas l'étiquette juive, ce n'est pas la circoncision qui sauve, mais c'est véritablement ce qui se passe dans le cœur de l'homme et comment l'homme reconnaît ses torts, ses fautes, devant Dieu et accepte la dépendance à Dieu. Sous-entendu ici, au Christ mort et ressuscité, en l'occurrence, puisqu'on n'est plus dans l'Ancien Testament. Et ça, je trouve que c'est assez extraordinaire, et ça doit donner des ailes à Pierre. Tout d'un coup, d'ailleurs, on le verra, on l'a vu avec l'histoire du baptême, par exemple. Oui, et c'est aussi pour ça qu'il rentre à Jérusalem, finalement, assez tranquille, assez confiant, tout en sachant qu'il va se recevoir une flopée de critiques et de questions par rapport à son comportement. Et on l'a vu aussi, ce n'est donc pas pour rien qu'il s'est embarqué à Césarée avec 6 personnes, tous circoncis, tous d'origine juive, pour témoigner de ce qui s'est réellement passé à Césarée. Il a pris, non pas des précautions, mais il a pris ses dispositions pour que l'honneur de Dieu soit sauf dans cette affaire et pour que les frères de Jérusalem acceptent que les païens sont leurs égaux dans la foi. C'est quand même pas rien, quoi, quelque part. C'est une sacrée révolution.
Yves, oui. Concernant, j'ai une question ici, concernant les 6 hommes qui ont été témoins à la Césarée, ils viennent de Jopé. Mais le verset, dans le verset 12, dit dans ma Bible, très courtement, « Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent ». Est-ce que ça veut dire que les 6 hommes sont avec Pierre à Jérusalem pour témoigner?
Oui, c'est pareil.
Ouais. Tout à fait, et on peut même supposer, alors c'est à quel verset, rappelle-moi?
12.
Non, en grec, je vais quand même vérifier.
L'Esprit Saint me dit de partir avec eux sans hésiter.
Ça a l'air clair, très courtement, ça a l'air clair qu'ils sont là à Jérusalem, mais je me suis demandé, est-ce que ça veut dire autre chose? Est-ce qu'ils sont bien là ou pas?
Oui, en fait, le texte, si tu veux, donc je sais, c'est pas très facile.
Donc c'est le seul endroit où on aurait l'information, voilà. On vient sur
donc,
Pierre.
Alors, si je traduis très littéralement, ça fait « avec moi », donc « avec moi, Pierre ». Aussi les 6 frères. Alors, c'est compliqué parce qu'en grec, il parle de ce qui s'est passé à Césarée, mais en même temps, il dit ceux-ci. Donc, il les désigne. On peut même imaginer qu'il est avec lui et qu'il les monte ou qu'il les présente, peut-être même par leur nom. Rappelons-nous que Luc, lui, il condense. Il ne va pas écrire 10 000 pages sur les événements. Donc, il condense, mais on voit dans le grec que. Ils sont avec lui et il les désigne. Mmh. Voilà. Donc oui, c'est la réponse à ta question, c'est effectif.
Ils sont là.
Ils sont présents.
C'est une force supplémentaire pour Pierre. Hein.
Oui, parce que bon, ça serait sa parole, à lui tout seul. Là, ils sont 7 à avoir vécu les mêmes événements. Et je vous rappelle que dans les règles du judaïsme, 2 suffisent.
Oui.
2 témoins sont supposés dire la vérité.
Tu veux que je te lise comment c'est marqué dans la mienne? C'est le français courant, la dernière. L'Esprit Saint me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 frères que j'ai amenés ici m'ont accompagné à Césarée et nous sommes tous entrés dans la maison de Corneille.
Mais le grec n'est pas si clair que ça, parce que le grec mélange, si tu veux, ce qui s'est passé à Césarée avec ce qui se passe maintenant à Jérusalem. Et donc, la seule différence en grec, c'est il y a les mots « ceux-ci ». Donc c'est comme s'il était en train de parler de ce qui s'est passé à Césarée, mais tout en montrant les 6 en question qui sont avec lui. Quoi. Voilà. Donc du coup, nos traductions varient très fort, parce qu'on est obligé en français de rajouter des mots, parce qu'ils n'y sont pas en grec. Donc si on veut expliquer, faire comprendre la présence des 6 frères à Jérusalem, on est obligé de paraphraser un peu en français quand même.
On ne sait pas si c'était voulu, ou si c'est bien tombé sans vouloir. Maintenant, si on se réfère à 11.1, les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient reçu la parole de Dieu. Donc les nouvelles se propagent très vite, et il est possible que Pierre, que Pierre se dit « Oh, il y a peut-être intérêt à ce que je prenne des témoins aussi avec moi, parce que ça va peut-être barder à Jérusalem. »
Voilà.
Je pense que quand il les a pris à Césarée, c'était déjà, d'une certaine manière, pour ne pas être seul devant la réalité de ce qui allait se passer, parce qu'ils se doutaient un peu, quand même. Mais alors, après, une fois à Césarée, avec l'histoire de l'Esprit-Saint et tout ça, je pense que là, il s'est dit...
J'ai bien fait.
Oui. J'ai bien fait et il faudra qu'ils viennent à Jérusalem. Bon, ça veut dire quand même les frères de Jopé ont accepté un long périple, Césarée-Jérusalem, c'est-à-dire une absence assez significative de leur localité, de leur famille, pour défendre l'honneur de Dieu, finalement, et en même temps protéger Pierre, d'une certaine manière. Parce que je pense qu'ils sont tous d'accord sur, entre les sept, si tu veux, avec Pierre, sur l'idée que ça ne va pas être facile à avaler à Jérusalem. Pas le fait que les païens soient convertis, mais le fait qu'ils aient mésusé des règles. Qu'ils ont outrepassé l'usage des bonnes règles du judaïsme. Ne pas fréquenter des païens, etc.
Entrer dans leur maison.
Voilà, en plus, manger avec eux, dormir. Voilà. Voilà, alors après, je ne sais pas si je vais poser une autre question.
Personnellement.
Oui, j'avais une question quand même, ça m'intéressait de savoir si vous avez conscience d'avoir reçu l'Esprit-Saint, parce que nous, effectivement, globalement, on n'est plus comme au 1er siècle. Donc il n'y a plus des petites flamèches qui descendent sur notre tête, et puis on sait visiblement... on ne parle pas tous en langue, etc. Il y en a qui parlent en langue. Hein, voilà. Et donc, on peut dire que les signes, qui étaient des signes messianiques, ont eu tendance à disparaître une fois que l'Église a été reconnue et puis s'est propagée. Mais en attendant, la démarche est toujours la même. Quand Dieu nous choisit, il nous inonde de l'Esprit-Saint. Mais comment peut-on en avoir véritablement conscience ?
C'est pas évident, hein ?
Ah ben, mamie a un témoignage à apporter.
Allez, mamie, on t'écoute.
C'était une période difficile, très difficile. C'était à Nyons, dans la Drôme. Et je me posais beaucoup, beaucoup de questions. Et plus les jours passaient, plus je sentais que... je rapetissais dans la foi, dans l'espoir du soutien de Dieu et de l'exemple que j'avais à donner, parce que j'avais tous les enfants autour de moi. Et puis, est arrivé à Nyons, dans cette ville, un prédicateur qui était en mission un petit peu partout, et qui a prêché d'une façon très claire, très précise, et il a dit maintenant, à la fin, maintenant, si quelqu'un a senti l'Esprit du Seigneur lui parler et lui demander de faire quelque chose pour que les autres le sachent, c'est ça, en quelque sorte, c'était ça. Alors je me suis levée et j'ai parlé. Et quelques jours après, à la maison, j'ai parlé, donc les gens ont su que j'avais reçu un baptême du Saint-Esprit. Ça se passait, j'étais dans ma chambre, au repos, dans mon lit. Et tout à coup, il y a un beau chant qui est venu à mes oreilles. Et je ne chantais pas, moi, mais autour de moi, il y avait des voix merveilleuses. Et ça chantait, et c'était à la gloire du Seigneur. Et j'étais très touchée par cela. Et je ne disais toujours rien. Et puis, au bout d'un moment, le Seigneur m'a fait sentir, maintenant tu as eu ta part. Il va falloir le partager maintenant. Et pendant cette mission-là, justement, qui avait lieu, on a demandé aux uns ou aux autres qui avait quelque chose à apporter, qui pouvait montrer combien Dieu pouvait être puissant. Et je me suis levée et j'ai raconté ce que j'avais vécu. Et au fur et à mesure que les jours passaient, mes enfants me disent « Mais on ne reconnaît plus, maman. On ne reconnaît plus, maman. Il y avait une paix en moi. » J'aimais bien chanter et j'aimais bien que les enfants participent aussi à ces chants, à ces prières. Je ne sais pas si Yves se souvient encore de ça, mais... Et lequel m'a dit « Maman, tu as changé ». Je ne sais pas si c'est toi ou un autre, mais dans mon esprit, c'est toi. Il a dit « Maman, tu as changé ». Et là j'ai dit ben, « Seigneur, merci ». Parce que c'est à ça qu'il fallait arriver. C'est que ton entourage, c'est bien de prêcher aux autres, mais chez soi aussi.
Oui.
C'est très important.
C'est plus difficile
à faire. Mais c'est tellement facile quand on est dans la main du Seigneur. Il nous conduit. Et il nous, pas à pas, il nous montre comment nous devons nous y prendre et comment nous devons nous conduire. Et moi, j'ai ressenti tout ça et je me sentais tellement heureuse. Et tout de suite après ça, nous avons été appelés en mission au Tchad. Donc, c'était à Kinshasa à l'époque.
Non, c'était au Tchad.
Oui, c'était au Tchad.
Après Lyon, c'est le Tchad.
Oui. Et nous avons revécu certaines choses, rappelle-toi, avec Gédéon, notre brave Gédéon. Nous avons revécu, un tout petit groupe a revécu ça. Yves et Gédéon priaient dans leur coin. Et moi, je les voyais. J'allais au bord de la rivière, qui n'était pas loin du tout de la maison, et je regardais les flots qui couraient. Et mon esprit était dans la prière. Et je demandais au Seigneur, il faut que quelque chose se passe dans notre lycée. Il faut que quelque chose se passe. Et Yves et Gédéon ont commencé à parler aux uns et aux autres, et ils ont vu le changement qui s'était opéré. Et il y a une fille d'un directeur, qu'est-ce qu'il était encore, le papa ? Et c'est un petit ponte, quoi.
De qui tu parles ?
La petite jeune fille que tu aimais bien.
Ah, Joséphine.
Je suis bien fiancée.
Ah, qui s'appelait Joséphine. Fille de ministre. La fille du ministre, elle a été touchée par l'esprit. Et la fille du ministre, elle a témoigné en public, devant ses camarades du lycée, devant nous tous qui étions présents. On n'était pas tout seul d'ailleurs, il y avait des gens de l'extérieur, chrétiens aussi, qui assistaient à ça et qui sont entrés dans la danse, si j'ose dire. C'était vraiment un temps béni.
Et cette année-là, il y a eu, parmi les étudiants, je pense au moins une cinquantaine de conversions véritables, dont plusieurs sont devenus pasteurs, dont moi, Gédéon, après, etc.
Gédéon, toi.
Abel et compagnie, c'était
quelque chose d'extraordinaire.
Un réveil, quoi, on peut dire.
Et voilà, comme quoi l'esprit, il n'est pas d'autrefois.
Non.
Il est toujours
merci,
là.
Merci, Josiane.
Et quand il doit agir, il agit, il agit merveilleusement bien. Voilà. C'était mon témoignage pour ce soir.
Merci.
Merci pour ce témoignage.
Oui.
C'est encourageant.
Ben oui, parce que...
Donc au fond, même si on n'a plus tous les signes qui étaient très repérables au 1er siècle, on sait que quand quelque chose change dans notre vie, ce n'est pas notre action. Tu ne peux l'attribuer qu'à Dieu ou à l'Esprit-Saint. Quelque chose se passe en nous, qui nous transforme, qui nous bonifie. Et puis, certains d'entre nous, peut-être, alors je ne sais pas si on peut appeler ça une chance, mais... Certains d'entre nous ont en plus des manifestations, car elles existent toujours. Manifestations du parler en langue, etc. Moi, je n'ai absolument rien contre, personnellement, même si je n'ai jamais vraiment vécu si des moments un peu extatiques, ça oui, dans ma vie, compris à ce moment-là, de ce que tu disais. Des moments forts, mais je n'ai jamais eu les manifestations de type pentecôtiste. Voilà, après... Après, je crois qu'il faut quand même mettre dans les signes ce que je pourrais appeler les vocations prophétiques, c'est-à-dire, je crois qu'il y a des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, qui sont amenés à expliquer le monde dans lequel on vit, à dénoncer parfois aussi ce qui se passe dans le quotidien, de manière un petit peu à la prophète, quoi, un peu virulent, un peu provocatrice. Et ça, ça aide aussi l'Église à rester à sa place, quelque part. Donc voilà, je pense qu'il y a des tas de signes. Maintenant, vous pouvez rajouter tout ce que vous auriez aussi comme témoignage. Mais donc, ce que je voulais surtout faire toucher, c'est que ce n'est pas que dans les textes qu'on découvre que l'Esprit se manifeste de manière un peu extraordinaire, un peu hors norme. Ça existe dans nos vies aussi. Et puis la conversion en est déjà le fondement. Comment est-on parvenu à décider de suivre Jésus? Est-ce que c'est juste par notre volonté, tu vois? C'est juste parce qu'on a cherché, puis on a trouvé.
Oui, voilà. Ce qui m'a touché, moi, ici, dans le passage qu'on vient de lire, c'est le verset 14. Envoie quelqu'un à Joppé et fait venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé. Toi et toute ta maison. Donc, pour moi, personnellement, l'annonce de la parole et, l'action du Saint-Esprit vont ensemble. Et Dieu, il peut toucher des gens qui ouvrent peut-être pour la première fois la Bible. Et je viens de lire un témoignage d'un groupe d'Iraniens qui voulaient conserver une langue qui est parlée par à peu près 3 millions d'Iraniens. Et ils utilisaient la Bible pour ça. Et c'était tout un groupe. Mais Dieu a touché deux personnes de ce groupe qui se sont converties parce qu'ils ont découvert que Jésus était leur sauveur aussi. Et ils ont fondé quelque part dans une ville, mais on ne donne jamais des noms.
Les détails.
Une petite maison, une petite communauté de maisons. Et je dis, mais les voies du Seigneur, c'est incroyable. Et des fois, je voudrais vivre des trucs comme ça aussi. Mais de l'autre côté, ça m'interpelle personnellement aussi. Parce que c'est vrai, on ne peut pas garder pour nous ce que Dieu voudrait qu'on partage. Et là, utiliser les bonnes méthodes, les bons moyens, les bonnes paroles, je trouve que c'est pas toujours facile. On ne veut pas choquer, pas du tout, mais on peut au moins transmettre l'amour que Dieu nous a manifesté et qu'il a pour les autres aussi. Voilà.
Okay.
Il y a une chose que je trouve qui est vraiment très parlante dans une conversion, qui est d'une manière ou d'une autre, de toute façon, ça se présente. C'est, je pense au verset de Jean 14, 26, qui dit que la promesse, c'est un verset qui dit que la promesse que l'Esprit rappellera tout de Jésus. Et quand on se convertit, alors là, on a, quand l'Esprit nous touche, on a eu le témoignage ici, on en a un autre. Quoi qu'il arrive, comment ça se passe, c'est différent pour chaque personne. Il y a quand même ça qui est important, c'est qu'à un moment donné, par l'intervention de l'Esprit, on comprend, je ne vais pas dire toute la parole de Dieu, mais on comprend le fil conducteur de la parole de Dieu. On comprend enfin que nous ne pouvons pas se sauver, que nous sommes pécheurs, que c'est Christ qui est mort à notre place et qui nous appelle à le suivre et à l'accepter. Et on comprend que dès qu'on dit « oui, je veux de toi », on comprend qu'on est sauvé. Et ça, je pense que si l'Esprit ne nous le dit pas, on peut le lire dans la Bible, on ne le comprend pas, et on ne le vivra pas. Par contre, c'est comme s'il y avait un éclairage sur quelque chose qui est sombre, noir. Je pense souvent à la grotte de Remouchamp, qu'on a visité une fois en famille, et à un moment donné, on s'assied tous sur des bancs, là, je ne sais pas si vous avez déjà vu, et ils éteignent la lumière. Et on se trouve dans le noir. Il n'y a pas plus noir complète. Que ça. Et puis, subitement, ils rallument. Ouf, heureusement, ça fonctionne. Oui. Je vais tourner à quatre pattes. On tombe souvent. Mais quand l'Esprit nous touche, je pense souvent à ça parce que on pouvait être religieux. Moi, j'étais catholique de tradition. Je croyais en Jésus, en Marie, en Tchik, en Tchak. Qu'il était mort pour nous, qu'il était ressuscité, qu'il était fils de Dieu, tout ça, je croyais. mais ça n'avait pas d'impact dans ma vie. Et au moment où la conversion vient, au moment où le Saint-Esprit nous inonde de sa vérité, waouh, pouf, c'est la lumière. On sort des ténèbres et c'est la lumière, on comprend. Non, pas toute la vie, parce que là, on a toute une vie pour l'apprendre, mais subitement, on comprend le plan de Dieu. Plus le nôtre...
Tout prend sens.
Voilà.
Oui.
C'est un puzzle qui se met en place, et il a commencé à se mettre en place. Et ça, je trouve que, puisqu'il y a eu la promesse, il vous rappellera tout de moi, mais au moment où on se convertit, c'est ce qu'il fait, en quelque sorte. Mais ça devient du réel et de l'efficace pour nous, personnellement.
Je crois qu'on grandit tous les jours, de toute façon. On n'a jamais fini d'avancer avec le Seigneur. Il y a quelque chose, moi, qui m'a vraiment très fort frappée, c'est quand j'ai compris que j'étais pardonnée, que les fautes anciennes étaient oubliées. Quel soulagement encore.
Ça libère, ouais.
Quand j'ai pu comprendre ça, et ça ne m'a jamais plus quittée. Mais quand tu reçois ça, après, ben, tu as envie, toi aussi, de donner pour le Seigneur, par obéissance, par humilité, tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on dit, eh bien, tu as envie de le faire. Ce n'est pas par devoir, c'est par gratitude, je ne sais pas moi comment pouvoir le dire. Mais on continue toujours, et c'est une bataille, parce que il y a des fois, qui n'a pas envie d'obéir, je dis franchement. Il y a des fois, j'ai vraiment pas envie d'obéir, j'entends la voix, enfin j'entends la voix dans ma tête, je n'entends pas les voix. Je sens que je dois faire quelque chose. Non, hein, pas encore, hein, pas tout de suite. Hein.
Oui, oui.
C'est une lutte, c'est une lutte de chaque instant. Mais grâce à Dieu, grâce à l'Esprit, on a la force, les moyens de le faire. Quoi. Tout seul, c'est pas possible. On traverse des choses trop dures parfois.
Dans la vie, oui.
On n'a pas tous le même parcours, hein, je veux dire. Bon, peut-être que, personnellement, comme on n'a pas vécu des choses extraordinaires, hein, des choses semblables, et qu'on a encore un doute, ben, Paul répond. Paul répond aux Corinthiens et il dit, ben, j'avais dans ma tête ce verset-là, puis j'ai été le retrouver, évidemment. Il dit que personne ne peut dire que Jésus est Seigneur, si ce n'est par l'Esprit Saint. Donc pour celui qui aurait encore un doute, qui se dit, qui se mettrait encore en doute, en disant, non, enfin, est-ce que j'ai bien reçu l'Esprit Saint? S'il pense vraiment que Jésus est Seigneur, s'il vit évidemment sa foi, hein, c'est suffisant. C'est peut-être pas merveilleux à exprimer, hein, ça n'est pas quelque chose de formidable à partager, mais c'est suffisant, c'est suffisant.
De toute façon, même si tu es tombé dedans quand tu étais tout petit, tu dois faire toi-même ton acte de foi.
Ah, de toute façon,
ce n'est pas transmissible.
Ah non, 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 ça c'est sûr et certain. Ouais,
la preuve, enfin la preuve, chez nous, ben, nous avons trois enfants, il n'y en a aucun qui, je ne dis pas qu'ils ne croient pas, mais je suis croyante, pas Patrick.
Mais pas pratiquant.
Pas pratiquant. C'est comme Colin disait toujours, oui, moi je suis nudiste et non pratiquant. Ah, ce qu'il a dit, oui, ça. Oui, oui. C'était marquant parce que, croyant non pratiquant, il y a quand même quelque chose qui ne va pas.
En fait, c'est toujours bien le problème de l'Église en général avec un grand E. Quand est-ce qu'on est dans la croyance sociologique? Quand est-ce qu'on est dans le spirituel? Tu peux dire que Jésus est ressuscité. Toutes les Pâques dans l'Église du monde entier, on va te chanter que Christ est ressuscité, alléluia. Mais qui le croit véritablement? Et là, je pense qu'il faut laisser à Dieu sa part de boulot. Cette conviction intérieure, elle vient de lui, comme tu viens de le lire d'ailleurs. Et Dieu sait. Dieu connaît les siens. Il n'a pas besoin qu'on vienne lui dire « c'est un tel... Bon. » Voilà. Tout ce qu'il faut espérer, c'est qu'un maximum, justement, d'hommes, de femmes dans le monde vivent réellement ce qu'ils croient. Que ce ne soit pas juste des mots.
C'est voilà. Très important.
De Poutine aussi dit « Christ est ressuscité ».
Oui, oui, voilà. Oui.
Est-ce qu'il le croit fondamentalement? Je ne sais pas.
Ouais, c'est pas possible.
Et c'est comme Trump qui dit, moi j'ai ma Bible, mais est-ce qu'il l'a jamais ouvert? Quand il était président, est-ce qu'il se promenait avec sa Bible?
C'est
hein,
bah oui,
le marque d'une conversion, c'est aussi quand Dieu est remis vraiment sur le trône qu'il mérite.
Voilà, à sa place, à la première place.
Qu'on n'impose plus à Dieu notre façon de voir, qu'on considère qu'il est le Créateur, qu'il est au-dessus de tout, que personne ne peut le surpasser, et qu'on accepte sa parole. Ça, c'est un signe que l'Esprit aussi agit dans nos vies.
Oui, parce qu'il éteint la rébellion naturelle, si tu veux, qui est en nous. Hein. Tout à fait. Voilà, je pense qu'on a bien répondu à cette question tout aussi impertinente que celle qui précédait. Mais je voulais en venir au verset 16, où je vous ai posé la question, mais je vais vous la poser autrement. Que vient faire ce verset 16 en lien avec la manifestation d'esprit, le don de l'esprit? On aurait pu imaginer qu'il n'y soit pas. Est-ce qu'on a besoin du verset 16? Non, dans cette péricope.
Ben, c'est un rappel quand même.
Alors, il fait allusion, alors on reprend l'idée de l'esprit qui nous amène à nous souvenir. Tout d'un coup, Pierre nous dit à nous, je me suis souvenu de cette déclaration du Seigneur, du vivant du Seigneur, si tu veux. Et il cite, Jean, disait-il, a donné le baptême d'eau, mais vous, vous allez recevoir le baptême dans l'Esprit Saint. C'est ce que dit le verset 16.
Et ce « vous », c'est tout le monde. Que.
Alors.
Non.
Ça visait d'abord la première Pentecôte, évidemment. Mais on voit bien que Pierre l'associe à la deuxième Pentecôte, celle des païens. D'accord. Mais pourquoi a-t-il besoin de ce verset dans son argumentaire? Qu'est-ce que ça va changer pour ses auditeurs à Jérusalem, qui, eux, n'ont pas vécu l'affaire Césarée? On peut imaginer que ça a une importance, quand même.
Est-ce qu'ils ont reçu l'Esprit-Saint, tous ceux de Jérusalem?
Normalement, oui.
Normalement, oui. Mais oui, mais qui sont ceux? Est-ce qu'il y a seulement
apôtres? Non. Il y a une flopée de gens qui l'avaient eu dès le premier jour de la Pentecôte, puis d'autres qui l'ont reçu encore après, et d'autres qui l'ont reçu par l'imposition des mains, etc. Donc il y a quand même... On peut dire globalement, tous les judéo-chrétiens, si tu veux, sont dans l'Esprit Saint. Maintenant, n'oublions pas que ce qu'on avait vu dans la fin du chapitre 10, c'est que le groupe qui interpelle Pierre est plutôt un groupe radical. Parmi ses collègues, ce sont ceux qui sont le plus judaïsants, qui lui disent « non mais là tu as outrepassé les règles, etc. » Et on peut se demander si là-dedans, tout le monde est bien au clair sur son appartenance et sur la direction de l'Esprit. Donc ce n'est pas pour rien que Pierre parle de l'Esprit Saint, mais je pense qu'il faut essayer d'aller plus loin, parce que de nouveau, dans la manière dont Luc écrit les choses, il n'y a jamais de hasard. Si Luc a voulu rapporter cette courte phrase du verset 16, c'est qu'elle a toute son importance dans toute l'argumentation de Pierre. Elle n'est pas l'argument premier, mais est un argument quand même suffisamment important. Alors, je voudrais d'abord vous faire toucher du doigt que ce qu'il dit là, c'est exactement la citation du premier chapitre, verset 5, premier chapitre des Actes. Donc il redit ce qu'il avait déjà dit au tout début du livre des Actes des Apôtres, chose qu'il avait d'ailleurs aussi dit dans son évangile, dans le chapitre 3 de l'évangile de Luc, au verset 16, où Luc nous parle de ces deux types de baptême. Le baptême par l'eau, si vous voulez, le baptême dans l'Esprit-Saint. Et on voit qu'à chaque fois, alors que ce soit dans Luc, que ce soit dans le premier chapitre des Actes, que ce soit ici au chapitre 11, dans tous les cas, Luc oppose les deux types de baptême. Puisque le baptême dont il parle, le baptême d'eau dont il parle, c'est celui de Jean-Baptiste. C'est pas celui qui viendra avec Jésus, d'accord? Donc le baptême d'eau, c'était quoi? Un baptême... Alors, il l'appelle ici baptême d'eau, baptême de repentance. On est d'accord? Donc un baptême, je vais le traduire autrement, avec de l'eau, au moyen de l'eau, d'accord? Donc l'eau, le baptême étant un moyen, ok? Donc l'idée... c'est que ce moyen-là est une manifestation publique de sa repentance et de son désir d'être purifié. C'est d'ailleurs pour ça que Jean-Baptiste prêche. Hein. Mmh. Un baptême de repentance, venez, je vais vous laver un bon coup, vous allez repartir. Mais après moi, dit-il, c'est ce que Luc nous rapporte, après moi arrive celui qui baptisera dans l'Esprit Saint, de feu, dit-il même, dans Luc, etc. Et donc il l'oppose à ce deuxième baptême, et vous remarquerez que dans toutes les citations que je vous ai données, on parle d'un baptême non pas de l'Esprit Saint, mais dans l'Esprit Saint. Le « dans » en grec est très important. Parce que ça veut dire quoi? Ça indique que ce n'est pas un moyen. Ce n'est pas un signe comme l'eau qui lave. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plutôt un état. On va le traduire encore autrement. C'est plutôt quelque chose qui nous englobe, dans lequel nous sommes englobés. Ou bien c'est un habitat intérieur. Ou pour le dire encore autrement, une présence active et dynamique en nous, dans le fort intérieur, dans la partie cachée de notre être, etc. Et donc, ça sous-entend quelque chose. Ce que sous-entend Pierre en revenant avec ce verset 16, c'est, en tout cas son argument, c'est que si Dieu a lui-même baptisé les païens dans l'esprit à Césarée, c'est qu'il entérine leur conversion. Il authentifie leur conviction, sous-entendu, avec ou sans circoncision. C'est ça la réalité, et ça c'est terrible. Pour moi c'est un argument de poids dans ce que Pierre présente aux frères. Il leur dit au fond, est-ce que vous allez aller à l'encontre de Dieu qui lui reconnaît la conversion des païens alors qu'ils ne sont pas circoncis? Tandis que vous, vous avez été baptisés dans l'esprit tout en étant circoncis. Sous-entendu, si vous, vous l'avez été et qu'eux le sont, c'est que c'est le même baptême et c'est qu'on est bien égaux, on est frères, on fait partie de la même communauté des « sauvés » entre guillemets par la foi au Christ Jésus. Bon là, je veux dire, chapeau, hein. Et on verra qu'il en a encore une ou deux comme ça à leur sortir, même si c'est avec beaucoup d'humilité. Ça va? J'aime bien que tu m'appelles Luc.
Inspiré.
Moi, Jean a baptisé d'eau.
Oui.
Mais vous, vous serez baptisé du Saint-Esprit.
C'est dans, en grec. Oui, non, mais c'est pas grave. Pour une fois, ça s'éloigne du grec, effectivement.
Tu vois, c'est pour ça que je dis, j'ai écouté... Pour moi, c'était la même chose. Quoi.
Parce que l'eau, allez, on reconnaît, l'eau, c'est une matière, une chose. Okay, on va dire ça comme ça. L'esprit serait-il une matière, une chose? Non. Mais... L'esprit, c'est quelqu'un de vivant. Voilà. Nous, on le sait, c'est une des facettes de la Trinité, une des personnes de la Trinité.
Oui, c'est pour ça que
Donc, on est baptisé dans, j'allais dire, dans la personnalité de cet esprit.
Oui, mais ça, j'ai bien compris. Autrement dit, on pourrait dire que dans le cas du baptême d'eau, c'est pas uniquement de l'eau. Tu vois ce que je veux dire?
Alors, il faut pas qu'on confonde les deux baptêmes d'eau, parce que donc le baptême de Jean-Baptiste c'était vraiment purement un appel à la repentance, tandis que le baptême en général qui suit la manifestation de l'esprit en nous, général, hein, je dis bien, il y a des exceptions même dans les actes. Hein, mais donc, au fond. Dieu entérine notre conversion par l'habitation de l'Esprit en nous.
Oui.
Suit alors un baptême d'eau qui, lui, est quoi? Si ce n'est pas le même que Jean-Baptiste.
Ce n'est pas un geste simplement de reconnaissance de notre part vis-à-vis de...
C'est un témoignage public, sans doute, oui.
Oui, bon, pour moi, c'est ça.
Donc, je pourrais presque dire la manifestation de notre engagement à suivre le Seigneur.
C'est ça.
À être disciple, à être connu comme disciple.
C'est ça que je veux dire. Quand tu reprends, c'est un acte qui fait que ton choix, tu
parce
le rends public.
Parce que ta repentance, elle a déjà eu lieu.
Oui. Donc, mais les gens ne le savent pas.
Effectivement, on meurt à quelque chose dans le baptême, ça c'est clair. Mais on renonce à l'ancienne vie pour embrasser la nouvelle vie. C'est ça qu'on dit publiquement aux gens. Voilà, je ne sais pas si ça vous convient. Mais ça me semblait très important de voir la différence que fait Luc... rapportant Pierre concernant la place et la fonction du baptême, finalement, et que si Dieu a accepté de baptiser dans l'esprit des incirconcis, c'est donc que nous sommes frères. Puisque nous, en tant que circoncis, sous-entendu les juifs, nous l'avons déjà eu aussi.
Quand tu parles d'incirconcis, ça veut dire les païens.
Non, oui. Ceux d'origine païenne, les croyants d'origine païenne, c'est ça ont reçu l'esprit, tout comme les croyants circoncis d'origine juive.
Parfois, tel mot ou tel mot, ça peut essayer de comprendre s'il y avait une différence entre non-circoncis et païens. Mm-hmm.
Alors, il y a un verset sur lequel je ne vous ai pas interrogé, mais je crois que le retourne, hein, j'ai l'impression qu'on a déjà dépassé. Est-ce que vous voulez qu'on continue encore un peu? En tout cas, pour le verset 17. Après, on peut garder le reste pour plus tard. Mais le verset 17, je n'ai posé aucune question.
Le piège.
Oui, non, pas spécialement, mais au fond, Pierre leur rajoute ceci. Donc, on vient de voir tout ce qu'il a déclaré au verset 16, et puis il ajoute en complément, si Dieu leur a donné, sous-entendu aux païens, le même don qu'à nous, nous les juifs, sous-entendu, quand nous avons cru au Seigneur Jésus, il parle d'eux là, il ne parle pas de ceux qui viennent d'être baptisés à Césarée. Qui étais-je donc pour m'opposer à Dieu? Ça, je crois que c'est quand même l'argument clé. L'argument massue. Hein. Donc on voit que ça a été crescendo, et puis là, il arrive quand même au sommet. Au fond, personne ne peut rien dire à cela. Ça, c'est ce qui cloue le bec totalement à la critique. La démonstration est complète. Seul Dieu était à la manœuvre. Et Dieu, lui, ne fait aucune différence, c'est ce que Pierre essaie de leur dire, entre les croyants d'origine païenne et ceux d'origine juive. Seul Dieu est donc responsable de l'entrée des païens dans la grâce, dans le salut, et par conséquent dans l'Église. Voilà, c'est tout ce qui se cache derrière l'argumentaire de Pierre. Et le fameux « nous » utilisé deux fois dans ce verset. Dans le raisonnement de Pierre, et ça, je crois qu'il faut vraiment bien le comprendre, le don de l'Esprit n'a pas été accordé à tous les Juifs. De qui parle-t-il quand il dit « nous » ? Voilà. Donc, aux judéo-chrétiens, aux Juifs qui ont embrassé le Messie, aux Juifs qui suivent Jésus comme leur Messie. D'accord ? Donc, il est en train de leur dire, le don de l'Esprit n'a pas été accordé à tous les circoncis ou à tout Israël. Mais seulement à nous, ceux qui ont cru en Jésus. Donc, les Juifs ne reçoivent pas l'Esprit Saint à cause de la circoncision, mais à cause de leur foi au Messie. Voilà ce qu'il dit dans ce petit verset. Et ça, je trouvais que c'était aussi admirable comme argumentaire final de leur dire « Faites attention, les gars, vous prétendez que la circoncision est très importante pour les nouveaux païens là, qui rentrent dans l'Église, mais pas du tout. Si ça avait été le cas, tout Israël serait sauvé aujourd'hui, qu'ils aient reconnu ou non le Messie. Or, ce n'est pas le cas. D'accord ? Là, je crois que c'était quand même pas mal comme argument final, je trouve. Et on voit que ça a un effet immédiat. Oui. Dès qu'il termine, on nous dit, hop !
Tu peux lire alors, 18,
ce qui est dommage, c'est que la plupart de nos traductions comportent le « ils se calmèrent hein ». Mais ce n'est pas du tout ce que le grec dit, hélas. Ils se turent. Il n'y a plus d'arguments. On est à court d'arguments. Il n'y a plus de critiques possibles. Désormais, on a bien compris que seul Dieu était à la barre. Tu vois, et que c'est Dieu qui veut ça. Ce n'est pas Pierre qui veut ça. Ce n'est pas les six de Jopé qui veulent ça. C'est Dieu qui l'a voulu. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Maintenant, on se tait. Hein, parce qu'il faut un peu réfléchir. Hein. Il faut un peu se remettre en question quand même. Voilà, on fera ça la prochaine fois, sinon on va prendre trop de temps. Je pourrais quand même 9 heures passer.
Ça nous prend encore fini.
Non. Ouais. Oui, parce que justement, le parti le plus radical dans les judéo-chrétiens a tendance à toujours appliquer le judaïsme à leur réalité messianique. Et ça va péter au chapitre 15, comme on le verra. Et ça pètera encore, d'ailleurs, dans l'histoire après. Okay. Ça vous va si on s'arrête là? C'est bien. Voilà, donc il nous restera le verset 18. Quelques applications quand même, j'espère, si on peut en trouver. Et voilà. Et donc on se retrouve la semaine suivante.
18 à quoi? Jusque la fin du chapitre?
Alors, oui.
Non, t'inquiète, il va t'envoyer un truc.
Oui,
ouais, j'avais des questions.
D'accord. On va faire. Tu as raison, on va faire, si possible, le verset 19 à 30. C'est-à-dire la fondation de l'église d'Antioche. J'ai essayé de voir comment on pouvait couper ça, mais si on coupe, il va nous manquer des éléments. Oui. Et ce n'est pas les quelques versets de la fin qui sont un peu différents. On ne va pas se faire que ça la prochaine fois non plus. Donc, j'ai opté pour tout garder. Puis on verra où ça nous mène, mais voilà.
Okay.